Vous écoutez, on lit pour vous.
La pénurie de médecins inquiète des conducteurs âgés qui doivent renouveler leur permis. Un texte de Flavie Sauvageau paru le 24 octobre 2025 sur Radio-Canada Info. Chaque mois, 40 000 conducteurs québécois, dont beaucoup d'aînés, doivent remplir un formulaire médical pour renouveler leur permis de conduire. Pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille, c'est plus compliqué. Des organismes s'inquiètent d'ailleurs du stress additionnel qu'ils peuvent subir. Perdre leur permis de conduire, c'est perdre leur autonomie, affirme la présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées pour la Capitale-Nationale, Judith Gagnon. Elle décrit l'angoisse qui habite plusieurs aînés au moment de renouveler leur permis de conduire. En effet, la SAAQ exige que les conducteurs âgés de 80 ans et plus, ainsi que d'autres plus jeunes, ayant certaines conditions de santé, se soumettent à une évaluation médicale tous les 2 ans pour le renouvellement de leur permis de conduire. Or, le stress double pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille, selon Judith Gagnon. Une 30aine de membres lui ont confirmé avoir vécu une situation problématique en ce sens. Même son cloche à l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale. Les gens m'appellent beaucoup ici. Ils ont 80 ans, ils reçoivent ce formulaire-là et s'inquiètent, raconte sa présidente Suzanne Girard. Le problème que nous avons dans la société actuelle, c'est qu'il y a un délai, déplore-t-elle, expliquant qu'elle dirige souvent ses conducteurs vers des cliniques privées pour faire compléter le formulaire. D'après des données de l'Institut de la statistique du Québec, 11,7% des Québécois de 80 ans et plus n'avaient pas de médecin de famille en 2024. « Appelez-nous », dit la SAAQ. La SAAQ se veut rassurante. Il y a un délai de 90 jours pour obtenir l'approbation d'un spécialiste de la santé, rappelle son porte-parole Simon-Pierre Poulin, qui ajoute que les infirmières praticiennes spécialisées peuvent aussi signer le document d'approbation. Il rappelle cependant que les conducteurs peuvent bénéficier de mesures d'accommodement. Peu importe la raison, appelez-nous. Puis, il y a des procédures pour avoir des délais supplémentaires. Ça peut aller jusqu'à 90 jours selon les conditions de santé. M. Poulain explique qu'il n'a pas observé beaucoup de cas où une personne aurait perdu son permis parce qu'elle n'était pas parvenue à trouver un médecin ou une infirmière praticienne. Après l'âge de 80 ans, généralement, il y a plus de gens qui renoncent d'eux-mêmes à conduire que des gens qui sont forcés d'arrêter de conduire à la suite d'un examen médical, précise-t-il. Or, pour Judith Gagnon, certains aînés renoncent à renouveler leur permis parce que la procédure est trop complexe. Elle croit que l'évaluation de l'aptitude médicale à conduire pourrait être réalisée dans les CLSC ou dans une clinique mobile pilotée par la SAAQ. C'était « La pénurie de médecins inquiète des conducteurs âgés qui doivent renouveler leur permis », un texte de Flavie Sauvageau paru le 24 octobre 2025 sur Radio-Canada Info.
Des usagers à bout de nerfs. Un texte de Henri Ouellet-Vézina, paru le 31 octobre 2025 dans La Presse. La frustration est palpable dans le métro et les autobus de Montréal à quelques heures du début d'une longue grève qui s'annonce jusqu'au 28 novembre. Pour la plupart des usagers, le transport collectif devrait être réellement traité comme un service essentiel. Citation. Ça fait 3 fois déjà. Et moi, j'ai besoin de prendre le métro tous les jours. Donc on fait quoi? Ça va m'affecter énormément dans mon quotidien. Fin de citation, s'impatiente Joanna Liu, que la presse a croisée vendredi matin à la station Berry-UQAM alors qu'elle était en route pour sa journée de travail. Visiblement irritée, la Montréalaise dénonce que le prix des billets est déjà cher, à plus de 100 $ par mois. La passe mensuelle coûte en effet 104,50 $ depuis cet été. Citation : Les passagers, ce qu'on veut, c'est de la stabilité. On paie pour ça. Là, ça arrive vraiment fréquemment. C'est beaucoup trop. Ellipse : Qu'ils règlent leurs problèmes et rapidement. Fin de citation, tranche-t-elle. Non loin de là, le barman Andy Porlier-Jacques seconde. Citation : Il faut être solidaire avec les employés de la STM, mais c'est sûr que ça va être dur pour tout le monde. Le transport collectif, c'est crucial à Montréal. C'est une trop grosse ville pour faire tous ces déplacements à pied ou à vélo. Fin de citation, constate-t-il. Dans la communauté étudiante, l'heure est déjà aux ajustements. Citation : La plupart d'entre nous vont devoir faire leurs cours en ligne. Moi, en tout cas, je ne vais pas prendre ma passe mensuelle en novembre. Je paierai à l'unité et sinon, je prendrai ma voiture, même si je n'aime pas conduire. Fin de citation, résume Taïna Zamor, qui se rendait justement en classe. Citation : On ne pourra même plus se déplacer quand on veut. C'est assez désagréable ce sentiment de rester coincé alors que c'est déjà beaucoup de dépenses. Fin de citation. Rien ce samedi. Il n'y aura aucun transport collectif à Montréal, une première en presque 40 ans, en raison de la grève des chauffeurs. Celle-ci s'ajoute à la grève des employés d'entretien, qui interrompra le service dans le métro et les bus, sauf aux heures de pointe, jusqu'au 28 novembre. À court terme, les trains reprendront à 6h30 le 2 novembre. Quant aux bus, ils recommenceront aussi le 2 novembre. Par la suite, le service ne sera disponible qu'aux heures de pointe du matin et de l'après-midi, ainsi qu'en fin de soirée, et ce, jusqu'au 28 novembre. Étudiant à Concordia, Bidan Shah abonde en ce sens. Citation : Peu importe la raison de la grève, les autorités et le gouvernement doivent prendre action. Il devrait y avoir une négociation rapide et claire. On ne devrait pas tolérer des grèves comme ça, mois après mois. Ils doivent arriver à une entente et vite. Fin de citation, martèle-t-il. Dans l'intervalle, citation, « Il n'y a juste pas d'autre façon abordable pour moi de venir, surtout que les bus sont aussi affectés. » Fin de citation, déplore M. Shah. Citation, « En tant qu'usager en ce moment, on n'a juste pas de choix. » Fin de citation. Le transport en commun représente plus d'un déplacement sur 5, 21% dans le Grand Montréal, selon la plus récente enquête sur les modes de déplacement. Dans le centre de l'île, c'est plus du tiers, 37% des déplacements des Montréalais qui se font en autobus ou métro. D'après l'enquête, le quart des Montréalais se rendant à un rendez-vous de santé prend le transport collectif. La grève affectera particulièrement les étudiants, pour qui le transport en commun est le principal mode de déplacement. En effet, 40% d'entre eux se rendent à leur cours en autobus ou en métro, loin devant la marche, 31%, la voiture, 18%, ou le vélo, 7%. Bixi est déjà prêt. Chez Bixi Montréal, on a indiqué vendredi que de nombreuses stations dépôt, très populaires lors des grèves précédentes, seront maintenues après le 15 novembre. D'autres seront ajoutées dans des lieux stratégiques. Les stations de dépôt permettent d'accumuler le surplus de Bixi sur le côté de la station afin qu'un point d'ancrage soit disponible à l'arrivée d'un usager à vélo. Des préposés seront également présents pour assurer le rebalancement du réseau qui risque d'être sous pression. Communauto de son côté tentera, citation, de réduire au maximum le temps d'indisponibilité des véhicules pour des opérations telles que le lavage, fin de citation, a indiqué son vice-président Marco Viviani. Léo Autopartage compte également optimiser la disponibilité de son parc au cours des prochains jours. C'était « Des usagers à bout de nerfs », un texte de Henri Ouellet Vézina, paru le 31 octobre 2025 dans La Presse.
Après une série d'accidents, les corps policiers appellent à la prudence en quadriporteur sur la voie publique. un texte d'Éric Yvan Lemay paru le 26 octobre 2025 dans le Journal de Montréal. Plusieurs accidents impliquant des quadriporteurs, dont certains mortels, ont fait la manchette dans les derniers mois. Un triste rappel qu'il faut respecter certaines règles de sécurité de base. Les corps policiers rappellent notamment que la vitesse maximale autorisée pour les quadriporteurs est de 32 km/h sur la route et 10 km/h sur les pistes cyclables. Selon certaines personnes, les véhicules qui roulent à 32 km/h et parfois même plus vite représentent un danger pour les utilisateurs. Malgré tout, ils ont le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques. Les AMM, aide à la mobilité motorisée, peuvent circuler sur les trottoirs et les pistes cyclables, sous réserve du respect des règles spécifiques à chaque infrastructure, précise le service de police de la ville de Montréal, SPVM. Les conducteurs qui ne respectent pas la limite s'exposent à une contravention comme les autres usagers. Ils n'ont toutefois pas besoin de permis de conduire ni d'attacher leur ceinture lorsqu'ils sont au volant. Des conseils sur Facebook. Plus tôt cet été, la Sûreté du Québec a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux à la suite d'une série d'incidents malheureux. Parmi les conseils prodigués par Jacques, un conducteur de quadriporteur de 93 ans, il y a celui de ne pas rouler en plein milieu de la rue. Il faut également utiliser les traverses piétonnières pour traverser aux intersections. Il est interdit de rouler en bordure des routes qui ont une vitesse maximale de plus de 50 km/h, sauf lorsqu'on roule sur une très courte distance et qu'il s'agit de l'unique moyen de se rendre à destination. De plus, les propriétaires de quadriporteurs doivent être prudents lorsqu'ils font recharger la batterie. On soupçonne qu'un véhicule de la sorte soit à l'origine d'un incendie qui a fait 2 morts dans un logement d'Alma en septembre dernier. C'était, après une série d'accidents, les corps policiers appellent à la prudence en quadriporteur sur la voie publique. Un texte d'Éric Yvan Lemay, paru le 26 octobre 2025 dans le Journal de Montréal.
L'hébergement devient une décision de famille. Un texte paru le 30 octobre 2025 dans Coup d'œil. La maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs sont progressifs et dégénératifs. Quand les besoins dépassent ce qui peut être offert à domicile, un déménagement en résidence, RPA, RI, CHSLD, peut devenir nécessaire. Ce choix n'est pas un échec ni de l'égoïsme, il représente une étape courante. En 2020, 61,6% des personnes âgées vivant en soins de longue durée étaient atteintes d'un trouble neurocognitif. Trouver l'équilibre entre les besoins de la personne et votre propre bien-être demeure essentiel car la responsabilité des soins se partage. Des organismes comme la Société Alzheimer offrent un soutien précieux tout au long de cette trajectoire. Selon l'Institut national de la santé publique, 2022, près de 60% des proches aidants avec une charge élevée montrent des signes d'épuisement. D'où l'importance d'agir tôt, de s'informer et de demander de l'aide. Pour choisir un milieu adapté, prenez le temps de visiter des établissements et renseignez-vous au sujet des services, des politiques et des coûts. Discutez avec des résidents ou leurs proches, ils ont souvent vécu un processus semblable. Notez vos priorités et vos attentes. Certaines résidences proposent des programmes de jour ou la possibilité d'aménager la chambre à l'avance, ce qui facilite la transition. La disponibilité des chambres varie selon les besoins de santé et la situation familiale. En 2024, plus de 3 800 personnes attendaient une place en CHSLD au Québec, selon le ministère de la Santé et de Services sociaux. Cette rareté entraîne souvent des décisions précipitées. Amorcer la réflexion tôt réduit ce stress. Logistique. Les coûts représentent un défi majeur. En 2023, le loyer moyen en RPA atteignait 1922 $ par mois. Source SCHL. Les CHSLD publics exigent une contribution basée sur le revenu, plus abordable, mais les listes d'attente sont longues. Le facteur financier pèse lourdement sur les familles qui doivent concilier qualité de soins et contraintes budgétaires. Lorsqu'une place se libère, les établissements demandent une réponse rapide. Beaucoup d'aidants manquent de temps pour organiser la logistique, documents, déménagement, effets personnels, préparation psychologique. Une bonne planification simplifie le processus. Apporter des objets familiers ou décorer la chambre peut rassurer la personne et faciliter l'adaptation. L'adaptation prendra du temps, autant pour vous que pour la personne atteinte. Même si les débuts sont difficiles, elle finira par trouver ses repères. Rappelez-vous que votre rôle d'aidant demeure, mais sous une autre forme. Moins axé sur les soins quotidiens, davantage sur la présence, l'écoute et les moments de tendresse. L'hébergement ne doit pas être perçu comme un abandon, mais comme un nouveau chapitre où la dignité et l'amour restent au cœur. C'est choisir la sécurité, la continuité des soins et la préservation du lien affectif. C'était « Quand l'hébergement devient une décision de famille », un texte paru le 30 octobre 2025 dans « Coup d'œil ».
Un nouvel espace centre d'autonomie au Familiprix de Saint-Étienne. Un texte paru le 30 octobre 2025 dans le Journal de Lévis. Le 29 octobre dernier, le nouvel espace centre d'autonomie a officiellement ouvert ses portes à la pharmacie Familiprix du secteur Saint-Étienne-de-Lauzon lors d'un 5 à 7 réunissant des membres du siège social, des partenaires du milieu de la santé et des acteurs de la communauté. Intégré directement à la pharmacie, ce service a pour mission d'offrir aux citoyens les outils nécessaires pour rester autonomes à la maison le plus longtemps possible. Grâce à ce projet, Familiprix développe un créneau unique qui est axé sur le domaine de la santé, une priorité pour l'équipe. Le propriétaire, Mathieu Guillemette, franchit donc une nouvelle étape en proposant un département spécialisé dans le matériel d'aide à la mobilité. Plusieurs produits variés sont disponibles pour les clients comme des béquilles, des marchettes, des chaises roulantes, des triporteurs, des lits articulés, des leviers mécaniques pour le bain, des barres d'appui pour le bain comme pour le lit et plus encore. Nous avions déjà certains accessoires en pharmacie, mais maintenant, nous offrons une plus grande variété, souligne M. Guillemette. Un projet pilote pour Familiprix. En mai dernier, un premier centre d'autonomie ouvert à Québec dans un vaste local de 10 000 pieds carrés a été aménagé dans un ancien concessionnaire automobile. De cette façon, Familiprix a pu voir les besoins concrets de ses clients, notamment en matière d'adaptation de véhicules pour les personnes à mobilité réduite, un service offert exclusivement à cet emplacement. Le Familiprix de M. Guillemette est donc la première pharmacie Familiprix à avoir un espace centre d'autonomie, un nouveau projet du siège social Familiprix Inc., qui se déploiera de façon stratégique à travers certaines succursales du Québec et du Nouveau-Brunswick. Dans l'ouest de Lévis, l'espace occupe environ 1000 pieds carrés et les clients peuvent se présenter pendant les heures d'ouverture de la pharmacie pour trouver l'essentiel du matériel qui les aidera au quotidien. Une équipe formée en collaboration avec l'Espace Centre d'autonomie de Québec est disponible pour guider les acheteurs et répondre à leurs besoins. De plus, les clients peuvent profiter de la livraison à domicile pour faciliter la transition. C'est un peu comme bâtir un avion en plein vol, confie le propriétaire qui croit réellement au potentiel de cet ajout au sein de sa pharmacie. Créer des liens avec la communauté. L'événement du 29 octobre a été l'occasion pour les professionnels de la santé et les acteurs du milieu de découvrir ce nouveau service et de référer leurs patients localement. Ce qui est avantageux de l'emplacement du Family Prix de Saint-Étienne est le fait que le secteur n'a pas beaucoup d'offres à ce niveau. Je pense que c'est de se faire connaître par les acteurs du milieu pour qu'ils aient le réflexe de venir chez nous plutôt que d'aller à Québec ou à Lévis-Centreville, précise Mathieu Guillemette. Évidemment, M. Guillemette affirme que comme il s'agit d'un tout nouveau service, il pourra s'adapter selon la demande et les besoins des clients qui bénéficieront des produits. C'est grâce à des pharmacies comme celle de Mathieu Guillemette que le groupe Family Prix pourra ensuite répandre ce projet à une plus grande échelle. Notre mission, c'est la santé, et je crois que c'est ce qui fait la force de Family Prix, conclut-il. C'était un nouvel espace centre d'autonomie au Family Prix de Saint-Étienne. Un texte paru le 30 octobre 2025 dans le Journal de Lévis.
C'est une nouvelle extraordinaire. Un premier médicament pour ralentir l'Alzheimer approuvé par Santé Canada. Un texte de Hugo Duchesne paru le 27 octobre 2025 dans le Journal de Montréal. Un premier médicament pour ralentir la maladie d'Alzheimer vient d'être approuvé par Santé Canada, mais son coût élevé pourrait restreindre son utilisation. Citation. C'est une nouvelle extraordinaire pour les patients. Fin de citation. Se réjouit le neurologue Robert Laforce, qui ajoute que l'attente était devenue dérisoire. Le Canada est le 52e pays au monde à donner son aval au lecanemab, commercialisé sous le nom de Leqembi. Il a été approuvé pour les personnes atteintes d'une forme précoce de la maladie et avec une disposition génétique. Le médicament pourrait ralentir la progression de la maladie de 10 à 13 mois et ralentir le déclin cognitif sans toutefois l'enrayer. Il agit sur les plaques amyloïdes qui se forment dans le cerveau associées à la maladie d'Alzheimer. Premier patient? Le docteur Laforce ignore quand les premiers patients pourraient recevoir le traitement. Ils devront être triés sur le volet pour répondre aux critères établis par Santé Canada, poursuit le docteur Laforce. Citation. Si on gagne une année de santé cognitive, c'est énorme, fin de citation, lance le neurologue et chercheur au CHU de Québec. Le traitement de lecanemab dure 18 mois avec une injection toutes les deux semaines et les effets secondaires incluent un risque d'hémorragie cérébrale. Les patients devront faire l'objet d'un suivi serré avec des scans fréquents du cerveau. Effet minimal. Le neurologue de Sherbrooke, Christian Bocti, est moins emballé par ce nouveau médicament dont l'effet est minimal sur le déclin cognitif. Il comprend l'engouement puisqu'il s'agit d'un premier médicament depuis près de 20 ans contre la maladie d'Alzheimer. Mais selon lui, les effets secondaires potentiellement dangereux, les coûts élevés et les besoins d'examen, IRM fréquents, seront un énorme fardeau sur le système de la santé. 83 millions de dollars. Selon le docteur Robert Laforce, la compagnie pharmaceutique fournira des doses à des équipes médicales, mais les prix éventuels devront être négociés par les provinces. Son coût pourrait être un frein. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, a déjà publié un rapport soulignant que le médicament pourrait coûter 40 000 $ par patient pour 18 mois et entraîner des dépenses d'environ 83 millions de dollars sur 3 ans pour le gouvernement. C'est une nouvelle extraordinaire, un premier médicament pour ralentir l'Alzheimer approuvé par Santé Canada. Un texte de Hugo Duchesne paru le 27 octobre 2025 dans le Journal de Montréal. Le CFP de Lévis intègre la réalité virtuelle à la formation des futures infirmières auxiliaires. Un texte de Étienne Vallière, paru le 27 août 2025 dans le Journal de Lévis. Le Centre de formation professionnelle, CFP, de Lévis a implanté un projet de réalité virtuelle dans son programme de formation santé, assistance et soins infirmiers en mars 2024. Dans le cadre du 75e anniversaire de la profession d'infirmière auxiliaire, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, OIIAQ, a mis ce projet en valeur dans une web-série sortie le 27 août. Dans sa web-série « L'avenir nous appartient », l'OIIAQ montre comment le CFP de Lévis, qui est l'un des premiers au Québec à intégrer la réalité virtuelle à sa formation, peut filmer des scènes dans le laboratoire du CFP ou à l'hôpital afin de permettre aux élèves de se plonger dans l'univers des soins. Ceci permet aux élèves d'être placés dans des situations authentiques du terrain sans commettre d'erreurs. Citation. C'est un peu le même principe qu'un livre dont vous êtes le héros. Souvent, on comprend que toutes les décisions sont bonnes. C'est plutôt la priorité qui est essentielle. Ça permet aux élèves de mieux comprendre les conséquences de leurs décisions. Fin de citation, explique Marie-Ève Simard, conseillère pédago-numérique au Centre de services scolaires des navigateurs, par voie de communiqué. L'intégration de cette technologie permet de travailler des techniques plus complexes, comme les soins et la surveillance d'un drain thoracique en toute sécurité. Le CFP de Lévis a observé que les élèves gagnent en confiance et que leurs résultats ainsi que leurs performances en stage ont augmenté grâce à ce projet. Citation. C'est très sécurisant. Lorsque je vais arriver à mon stage de chirurgie, je vais être moins pris au dépourvu face à des situations que j'aurais déjà vues dans le cadre du laboratoire de réalité virtuelle. Fin de citation, indique Raphaël Nicole, élève au CFP de Lévis, par voie de communiqué. C'était « Le CFP de Lévis intègre la réalité virtuelle à la formation des futures infirmières auxiliaires ». Un texte de Étienne Vallière, paru le 27 août 2025 dans le Journal de Lévis.